Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux amateurs de Sport Week-end, édition du samedi 28 avril. Oui, Jérémy Rainville et sa voix enrhumée sont avec vous jusqu'à 18h30. Évidemment, ça sera une émission fort chargée. On va tenter de passer au travers tout ça, mais vous savez, fidèle au combat, je suis là et j'espère que vous serez en mesure de tout comprendre ce qui va se raconter pendant cette émission. Dans un premier temps, évidemment, on va parler de cette loterie. Vous savez, c'est ce soir que vous devez sortir les lampions et espérer que le Canadien de Montréal repêche au premier rang lors du prochain repêchage. Comment ça va fonctionner? C'est avant le match ce soir entre les Golden Knights de Vegas et les Sharks de San Jose. On va tirer des positions de 15 à 4. Et après la deuxième période, donc au deuxième entraque, on tirera des positions de 3 jusqu'à 1. Donc, on saura quel sera le plan de Marc Bergevin avec ce numéro qui viendra pour la prochaine loterie, pour le prochain repêchage de la Ligue nationale d'hockey. On va revenir également sur cette défaite de l'Impact qui s'est inclinée 4 à 1 face à Atlanta dans un match, encore une fois en deux temps, une première demi respectable. Deuxième demi, on a vu l'Impact se faire marquer à 4 reprises. On aura la chance de parler à Jérémy Filosa et Vincent Destouches qui seront avec nous. On parlera également d'hockey junior. Le junior est à la mode cette semaine. Stéphane Leroux sera là pour nous parler de cette série qui implique entre autres Joël Bouchard et l'Armada de Blainville-Boisbriand. On fera un tour également à la Coupe TELUS. Vous savez que les cantonniers de Magog disputent présentement la demi-finale. Donc, on sera en mesure de parler avec Jasmin Leroux. Mais pour l'instant, Philippe Quentin est avec nous. Salut Philippe.
Salut Jérémy.
Philippe, débutons immédiatement avec l'Impact parce que c'est une défaite de 4 à 1 de l'Impact de Montréal face au Atlanta United. On l'a vu en deux temps encore une fois, une bonne première demi, on a marqué, on était capable de fermer le jeu. Mais en deuxième demi, tout a éclaté, c'était pêle-mêle sur le terrain, il n'y avait plus de compétition là.
Ah non, ça a vraiment été une deuxième demi horrible pour l'Impact. C'est franchement désolant de voir ça. L'équipe semble absolument sans ressources, sans mordant. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, Jérémy. C'est l'absence de volonté sur le terrain. On a vu une équipe complètement apathique en deuxième demi. Il ne se passait rien. Mais même en première demi, avouons-le, là, c'était difficile au début. Mais le but de Tyder, une très belle tête, a donné un élan à l'Impact. Et je comprends là, que ce n'est pas facile de jouer à Atlanta. Des dizaines de milliers de personnes, une ambiance du tonnerre dans les gradins, les gens qui encouragent leur équipe à plein poumon. Donc, c'est un mandat qui est difficile pour une équipe, mais d'un autre côté, tu peux puiser de l'énergie là-dedans. Et on dirait que chez l'Impact, ça a été l'effet inverse. On s'est dit, hop, on a tenu le fort pendant la première demi, puis par la suite, là, du moment que les vannes se sont ouvertes, même un premier but, tu sentais là, que c'était une question de temps avant qu'il y en ait un deuxième, puis un troisième. C'est en plein ça qui est arrivé. Et là, je trouve que la situation commence à être très inquiétante pour l'Impact. Parce que l'équipe n'obtient pas de résultats convaincants. Il y a eu une embellie après les deux premiers matchs de la saison. On s'est dit, ben, coudonc, peut-être que c'est le temps d'attacher tous les morceaux ensemble, que ça prend un peu de temps. Mais là, franchement, ça va de mal en pis. Puis tu regardes le match d'aujourd'hui, là, puis tu dis, par quel bord on peut prendre ça pour trouver un minimum d'espoir? Là? Tu sais, franchement,
honnêtement. Mais c'est-tu quoi? Lorsque Rod Fanny était en place, on sentait qu'il y avait plus de calme en défensive. Mais il faut être honnête, je veux dire, Atlanta, c'est une puissance dans la MLS. On s'attendait à voir l'Impact perdre ce match-là, mais pas une déconfiture de 4 buts en deuxième demi. Mais Rod Fanny amenait vraiment quelque chose de calme en défensive et on sentait qu'on était peut-être un peu plus en contrôle.
Ouais. Mais tu sais, c'est encore une fois, il y a un manque de punch en attaque. Puis tu sais, on voit aussi ce début de saison-là sur la route, plusieurs matchs. Tu te souviens, toi et moi, on avait fait le rapprochement il y a quelques semaines entre le calendrier du Canadien la saison dernière et de l'Impact cette saison. Combien c'est difficile de commencer avec de gros défis sur la route, parce que si tu casses à ce moment-là, ça devient difficile de se reprendre. Puis je trouve que c'est un peu le même phénomène qui est en train de se produire. Puis on le sait que l'an dernier, la saison du Canadien, franchement, toute fin utile, là, on était rendu au 1er novembre, puis les chances de participer aux séries étaient déjà très minces. Et pour l'Impact, je trouve que là, ça commence à ressembler à la même chose. Là. Il y a pas 10 matchs de jouer, puis tu regardes ça, puis tu te dis, coudonc, ça va être très dur. Et oui, peut-être un peu, parfois, des signes encourageants. Tu parles de Fanny, j'ai parlé de Tyder tantôt, mais tout ça ne change pas au fait que c'est pas soutenu chez l'Impact. Et ce qui est inquiétant, c'est que ça fait trois matchs consécutifs que c'est la deuxième demi qui coûte très cher à l'équipe. Alors là, tu te demande, mais pourquoi? Pourquoi ils sont pas capables de tenir la deuxième demi? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Une combinaison des deux? Mais pour l'entraîneur, Rémi Garde, là, lui-même, tout à coup, il va falloir qu'on commence à poser des questions. Donc, comment ça qu'il réussit pas à régler à tout le moins en partie ce problème-là? Et comment se fait-il que l'équipe manque autant d'énergie en deuxième demi? C'est un gros problème.
Et pourtant, on a passé le camp d'entraînement à faire du jogging. On était supposé être en forme physiquement.
Ben oui,
et
ben
être
oui.
prêt pour ces deuxièmes demi. Bon, laissons
parce
de côté l'impact.
On disait justement que l'équipe l'an dernier avait peut-être manqué au niveau de la forme physique. Peut-être que c'est plus compliqué que ça.
Oui, je pense que c'est peut-être un peu plus complexe. L'impact qui va affronter la Révolution de la Nouvelle-Angleterre, ça sera samedi prochain au stade Saputo. Maintenant, match en cours présentement, les Bruins de Boston, les devant 1-0 sur le Lightning de Tampa Bay. C'est le match numéro 1 de cette série. Hier, Nashville s'est fait dominer par les Jets de Winnipeg. Tuukka Rask a été un peu ordinaire. Écoute, juste rapidement, ton point de vue sur le premier match entre Winnipeg et Nashville.
Ben, j'ai été étonné par le flegme des Jets de Winnipeg. Ça, c'était pas facile d'arriver pour eux à Nashville. Et puis, quand même, je trouve qu'ils ont joué avec beaucoup, beaucoup de cran. Et là, cette équipe-là, qui on sait tous qu'ils ont une très, très bonne équipe et puis qu'ils sont sérieux puis qu'ils ont des bons jeunes joueurs. Mais tu sais, c'est peut-être pas l'équipe qu'on attendait cette année là, pour aller loin en séries éliminatoires dans les équipes qui sont vraiment menées par des jeunes joueurs. On s'attendait, et là, si on retourne en début de saison, moi, je pensais que les Oilers d'Edmonton, avec McDavid, avec Dreisaitl, tu sais, qui seraient capables de faire un bout de chemin. L'an dernier, ils avaient été bons en série. Bon, on connaît la suite. Ils ont eu une saison vraiment catastrophique, puis ils participent même pas aux séries. Et là, tu te dis, ben, coudonc, Toronto avec Austin Matthews, Mitch Marner, puis bon, Bob Babcock derrière le banc, encore une fois, les éléments sont là. Puis moi, j'ai été très déçu du rendement des Maple Leafs en série. J'ai trouvé que dans au moins 3 matchs, ils n'ont pas été là, ils n'ont pas été très convaincants. Puis quand tu perds la dernière période du 7e match 4-0, là, juste dans cette période-là, que tu es peut-être incapable de préserver une avance d'un but, puis tu te fais franchement défoncer comme ça a été le cas, je trouve que, oups, là, ça a été un peu inquiétant. Alors là, ce sont les Jets de Winnipeg, dont on parle moins parce qu'ils sont dans un marché médiatique qui est moins couvert. C'est pas Toronto, très certainement. Mais voilà que les Jets ont toute une équipe. Et franchement, aujourd'hui, j'ai l'impression que les Prédateurs de Nashville doivent être un peu inquiets. Parce qu'aller gagner à Winnipeg, ça va être extrêmement difficile. C'est un amphithéâtre qui est intimidant pour les équipes adverses. Et là, tu sens que les Jets sont portés par un air d'aller extraordinaire. Alors là, ils ont rempli leur mission. Ils ont gagné un match à Nashville. Donc, ils sont véritablement là pour reprendre le cliché dans le siège du conducteur.
Ce soir, ça sera la loterie pour déterminer qui repêchera au premier rang lors du prochain repêchage qui aura lieu à Dallas. Crois-tu que Marc Bergevin est en train de mettre son chapelet sur la corde à linge? J'ai allumé des lampions. Écoute, tu sais, ça fait partie de son plan aussi. C'est un peu chanceux, mais si jamais ça tombe, ça peut aider le Canadien, là.
Ouais, tu sais, il y a deux aspects dans tout ça, à mon avis. D'abord, l'aspect, c'est sûr que là, tout le monde parle de la loterie Rasmus Dahlin, puis on dit tous que Dahlin va devenir un joueur extraordinaire, puis sans doute que ce sera le cas, mais on ne sait jamais avec un premier choix au repêchage. Souviens-toi de l'année de Neil Yakupov à Edmonton. Là, tu sais, tout le monde s'attendait à ce que Yakupov transforme cette équipe-là. On connaît la suite. Il n'a pas eu une très grande carrière. Là, et il est allé d'équipe en équipe depuis ce temps-là. Alors, il n'y a pas de certitude. Puis tu regardes les choix, 2, 3, 4, ce sont des ailiers, des gars qui semblent avec beaucoup de potentiel aussi. Donc, peu importe là, si le Canadien a un des 4 premiers choix, ça va être un très bon joueur de hockey. Mais il y a un aspect psychologique à obtenir le premier choix. C'est que là, les gens, là, avec le Canadien, il n'y a pas vraiment d'espoir. Tu sais, ça a été une fin de saison catastrophique. Les explications de la direction lors du bilan, ça n'a pas été extrêmement convaincant. Marc Bergevin est allé, tout le monde en parle. Je pense pas qu'ils ont convaincu beaucoup de gens que son plan était vraiment enthousiasmant. Alors, l'enthousiasme est à plat. Et là, si jamais ce soir, le Canadien sortait de là avec de ce tirage avec le premier choix au repêchage, ça change la perspective de l'équipe, ça change la perspective des fans aussi, ça crée un vent d'enthousiasme extraordinaire. Et ça, je trouve que cet aspect-là aussi est important, parce que dans le fond, dans les ailiers dont on mentionne les noms, que ce soit Tkachuk ou les autres, tu sais, peut-être qu'ils deviendront meilleurs ou aussi bons que Dahlin d'une façon différente. Alors, on ne le sait pas, mais donc, tu vois, théoriquement, le Canadien va avoir un très bon joueur, là, à moins qu'il soit malchanceux puis qu'il recule jusqu'au 7e rang. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas un bon joueur au 7e rang, mais c'est sûr que ce serait un petit peu décevant de choisir aussi tard quand tu as une chance d'avoir le premier. Mais je pense que l'aspect psychologique est important aussi. C'est une équipe qui ne génère pas d'espoir. C'est une organisation qui ne génère pas d'espoir à l'heure actuelle. Et ça prendrait un grand coup, un coup comme celui-là. Et tu sais, si jamais ce soir, là, c'est le cas, imagine demain l'enthousiasme de tout le monde. Si le Canadien obtient le premier choix, ça serait vraiment quelque chose qui transformerait l'organisation avec un joueur qui serait probablement capable de jouer dès la saison prochaine. Mais non seulement de jouer, mais d'être un élément très important dans cette équipe-là. Puis, dans cette équipe-là. Puis là, tout le monde se mettrait à voir les côtés positifs. Ben, Price va revenir. Puis, mettez. Ça va être sa deuxième année. Puis Dominique Duchamp va relancer Jonathan Drouin. Puis, tu vois, tout à coup prendrait une couleur différente. C'est psychologique, mais c'est comme ça que ça marche. Puis le sport professionnel, c'est une business d'espoir. Alors, gagner le premier choix pour l'espoir, c'est extraordinaire. Mais par c'est contre, drôle. Si le Canadien a le septième choix, quand on fait miroiter le premier, oups, là, ça va être décevant.
Oui, mais c'est drôle qu'on dise ça. Puis tu as raison en amenant cette perspective-là. Sauf que ça nous dit comment on est parfois un peu bipolaire, tu sais. On a sensiblement les mêmes donnes, mais là, on a une petite tape dans le dos et là, on serait extrêmement positif savoir qu'on a le premier choix au prochain repêchage.
Ben oui, c'est sûr, puis c'est normal parce que tu veux tout le temps espérer. Quand tu suis une équipe, les gens sont fans d'une équipe, ils espèrent tout le temps le mieux pour cette équipe-là et tu t'accroches à toutes les bouées que tu peux trouver. Et comme bouée, là, le premier choix au repêchage, difficile de trouver mieux.
Dis-moi, ce soir, parce qu'on parle beaucoup d'espoir, crois-tu que Nashville, pas Nashville, mais San Jose a encore un peu d'espoir après s'est fait varloper 7-0 face à Vegas?
C'est extraordinaire ce qui se passe à Las Vegas. Là. T'sais, écoute, c'est deux équipes qui étaient reposées, puis il y en a une qui arrive puis qui gagne 7-0. J'ai pas vu le match. C'était jeudi soir. Je revenais de Québec où j'ai assisté à la conférence de presse de Patrick Roy plus tôt dans la journée avec son retour avec les Remparts. Alors, j'ai écouté les faits saillants là, sur mon téléphone. Et c'était une petite vidéo qui est sur le site de la Ligue nationale. Ça dure à peu près 6 minutes. Puis souvent, j'en écoute. Souvent, je vais voir comme ça des faits saillants de matchs qui m'intéressent que j'ai pas vu la veille. Puis généralement, tu vois des chances des deux équipes. Tu sais, tu vois les buts, puis tu vois chaque équipe, les chances de l'un, les chances de l'autre, puis tout ça. Puis ça donne l'idée d'un match. Mais là, ce qui m'a frappé en regardant cette vidéo-là, les chances étaient toutes d'un côté. Ça à la toute fin, San Jose, là, dans la dernière minute, a failli faire 7-1. Il y a eu un bel arrêt de Marc-André Fleury. Mais je trouvais que ça donnait une idée du caractère unidimensionnel de ce match-là. Le pointage, bien sûr, mais toute l'allure de la rencontre. Parce que ça aurait pu finir 10-0, c'est ça la vérité. Alors là, tu te demandes comment les Sharks vont se sortir de ça. Mais les tu sais, je parlais tantôt des Jets, Jérémy, qui sont portés par le public de façon incroyable à Winnipeg. C'est un peu vrai à Nashville aussi. L'an dernier, on l'a vu, puis c'est sûr que c'est encore un des bons publics de la Ligue. Mais à Vegas, je pense que ça dépasse l'entendement. Puis il y a l'élément de surprise, parce que tout le monde se demandait, hey, ça va-tu fonctionner, le hockey à Vegas? Est-ce que les gens connaissent ça? Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'il va y avoir de l'enthousiasme? Et là, tu vois, le résultat, c'est l'histoire de la saison dans la Ligue nationale. Et franchement, arriver avec une performance comme celle-là, premier match, tu envoies tout un message à ton adversaire. Puis là, tu dis, coudonc! Est-ce que ça se pourrait que les Golden Knights de Las Vegas gagnent la Coupe Stanley? Puis le premier réflexe, c'est encore de dire, ben non, voyons, Pittsburgh, Tampa Bay, Nashville, mais un instant là, ils jouent du gros hockey, puis si jamais, c'est loin d'être fait, on s'entend là-dessus, mais si jamais ils gagnaient facilement contre les Sharks de San Jose pendant que Nashville et Winnipeg font durer ça, ces matchs, dans une série extrêmement physique, je pense que c'est peut-être eux autres qui seraient les favoris rendus en demi-finale de la Coupe Stanley. Alors, tout est possible pour une équipe qui y croit vraiment, puis c'est vraiment extraordinaire de suivre le parcours de cette équipe-là.
Philippe, j'étais en onde quand Vegas a joué contre San Jose. Écoute, la première période, c'était un feu d'artifice. Vegas a complètement dominé. Mais je regardais le style de jeu, puis ce soir-là, j'étais regardé dans la formation et je me suis dit, j'ai l'impression que c'est un club rapide de l'Est qui joue contre un gros club lent de l'Ouest. Et là, mine de rien, vous savez que l'ensemble des joueurs vient de joueurs non protégés à travers la Ligue nationale. Et 7 des 12 attaquants venaient de l'Est. Et je me suis dit, tu vois, la rapidité de l'Est vient complètement contrecarrer le gros côté physique des gros buffs comme Burns en défensive ou des joueurs comme ça. Vraiment, on voyait une grande différence dans le style de jeu.
Ouais, c'est vraiment intéressant comme observation, justement, sur l'origine des joueurs, d'où ils viennent, de quelles organisations. Mais tu vois, cette gang de gars-là qui était plus, que leur propre organisation ne trouvait pas assez important pour les garder, pour les protéger, au fond, c'est ça. Là, c'est pas plus, il n'y a pas d'autre façon de regarder ça. On en a choisi d'autres. Puis eux, on les a laissés aller en leur disant bonne chance. On pense qu'on va être capable de continuer d'avancer sans vous. Et là, eux se regroupent de façon exceptionnelle, ont tous des choses à prouver. Puis là, ils se développent un esprit de camaraderie qui est manifestement très, très fort dans cette équipe-là. Tu sais, je pense qu'on peut dire une chose de tous les clubs de la Ligue nationale à l'heure actuelle, celui qui est le plus une équipe, et je parle d'une équipe dans le sens de on se soutient les uns les autres, on s'appuie, on se fout éperdument de savoir qui va être la vedette du match, on veut simplement que l'équipe gagne, c'est équipe d'abord et avant tout. Pour moi, à l'heure actuelle, ce sont les Golden Knights qui réussissent ça, parce que théoriquement, ils n'ont pas une formation aussi forte que d'autres équipes en lice dans les séries éliminatoires. Alors, c'est une aventure absolument exceptionnelle, puis j'ai déjà hâte de voir le match de ce soir.
Philippe, avant qu'on termine en parlant de Dominique Ducharme, qui est maintenant l'adjoint à Claude Julien chez les Canadiens, juste à dire que les Bruins de Boston viennent de prendre les devants 2-0 en début de deuxième. Pasternak, une passe à Patrice Bergeron qui marque, et c'est 2-0 dans la première minute de jeu de la deuxième période. Écoute, je pense que Lightning de Tampa Bay doit s'attendre à avoir beaucoup de compétition dans cette série-là.
Parlons
de Dominique Ducharme maintenant. Écoute, hier, je posais la question aux gens dans une tribune téléphonique. Est-ce que la venue de Ducharme calme un peu votre haine, un peu le feu qui bouille en vous envers le Canadien de Montréal? Et c'était assez timide. C'était oui, mais juste un peu. Mais quand même, pour l'entraîneur-chef qui est Dominique Ducharme, c'est une nouvelle incroyable de joindre aux Canadiens de Montréal.
Ouais. Puis je pense que c'est la bonne réaction des gens. Tu peux pas faire autrement que de te réjouir. Il y avait là un entraîneur qui était disponible, qui voulait faire le show chez les professionnels, qui a prouvé sa valeur dans le hockey junior. Quand même, choisi deux fois l'entraîneur d'équipe Canada junior, c'est pas rien dans le parcours d'un entraîneur. Et que le Canadien réussisse à le mettre sous contrat, qu'il vienne seconder Claude Julien, ça commence à remplir au tout début, les premiers balbutiements du mandat que Jeff Molson a donné. Rappelle-toi, Jérémy, c'est une déclaration importante de Jeff Molson au bilan de fin de saison. Le statu quo n'est pas une option, donc il fallait qu'il y ait des changements. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'il y avait eu comme changement, c'était qu'on avait dit bonjour à Sylvain Lefebvre, qui c'était la décision la plus facile dans les circonstances. On n'a toujours pas annoncé de remplaçant. Là, peut-être qu'on verra bien si Joël Bouchard finira par aboutir à Laval. Mais de voir que Ducharme arrive, ça confirme là, qu'on veut renouveler un peu le personnel chez le Canadien. Donc, c'est un point positif. Maintenant, faut être prudent, c'est sûr. Ce n'est pas un entraîneur adjoint qui va tout bouleverser dans une organisation. Mais je trouve néanmoins que l'annonce de l'embauche d'un entraîneur adjoint, ça n'a pas toujours le même impact. Puis des fois, c'est important. Puis des fois, c'est moins important. Mais dans ce cas-ci, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve que le Canadien manque de contact au niveau du hockey junior québécois. En tout cas, on ne sent pas que c'est une organisation qui est branchée à 200% sur ce qui se passe dans la Ligue junior majeure du Québec. On n'a jamais eu cette impression-là depuis plusieurs années. Et là, tu arrives avec un spécialiste de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, je trouve que ça, c'est un atout. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe d'amis de Marc Bergevin et Claude Julien. Ils ne se connaissent pas vraiment. Ils se sont rencontrés une fois ou deux là, pour les entrevues. Puis Ducharme avait parlé avec Claude Julien plus longuement une fois en 2016 avant le tournoi de la Coupe du Monde. Alors donc, quelqu'un qui va arriver avec des idées externes, des idées que, tu sais, qu'il va penser un peu autrement. Il va arriver avec ses propres suggestions. Donc ça, je trouve que ça fait du bien. Ça apporte de l'air frais chez le Canadien. Et pour moi, c'est une excellente nouvelle.
Ben voilà, excellente nouvelle. Et tu as bien raison de le mentionner. Philippe, je te dis merci énormément. Je te souhaite un excellent samedi. Et au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, Philippe Quentin.
Et je te souhaite de retrouver ta voix bien rapidement.
Ah oui, là j'ai l'air d'un gars qui fait tirer des t-shirts. All right. Merci beaucoup, Philippe.
Salut, Jérémy.
Voilà, on s'arrête quelques instants. Et au retour, vous voulez savoir comment ça va se passer ce soir, la loterie de la Ligue nationale de hockey, pendant que le Lightning de Tampa Bay vient de marquer ses 2-1 pour les Bruins de Boston en deuxième période. Je vous donne tous les détails au retour.